VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 8 novembre 2018, en direct de Washington, Idrissa Sidoudia.
Et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
À Madagascar, le premier tour de la présidentielle s'est déroulé hier dans le calme.
En République démocratique du Congo, des candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain demandent le retrait de celui de la coalition au pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadary.
Au Rwanda, le parquet a requis 22 ans de prison contre l'opposante Diane Rwigara.
En Guinée, deux hommes ont été tués hier soir par des tirs de militaires dans une banlieue de Conakry.
Ici aux États-Unis, Jeff Sessions démissionne de son poste de ministre de la Justice à la demande du président Donald Trump.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
À Madagascar, les électeurs ont voté hier dans le calme pour le premier tour de la présidentielle. 36 candidats se disputent le fauteuil, dont 4 anciens chefs d'État. Ce scrutin est censé mettre fin aux nombreuses crises qui ont secoué la grande île ces dernières années. Le point avec Morgane Guiriec.
Le dépouillement a commencé hier, dès la fermeture des bureaux de vote. Madagascar ayant un réseau routier délabré, l'acheminement d'une partie des procès-verbaux se fera par hélicoptère. Le président de la Haute Cour constitutionnelle, Jean-Éric Rakoto-Arissou, a exhorté hier les candidats à ne pas annoncer de résultats avant la Commission électorale nationale indépendante et à ne pas se déclarer vainqueur avant le résultat final. Il y a 36 candidats, dont les favoris sont les ex-présidents Marc Ravalomanane, Andras Joël et R. Rajao Narimampian, qui a échappé à 2 destitutions. Monsieur Rajoel, 44 ans, est apprécié des classes populaires et de la jeunesse. Marc Ravalomanane, 68 ans, est perçu comme le candidat de l'intelligentsia. Les premiers résultats provisoires sont attendus d'ici demain matin. La proclamation des résultats officiels est prévue le 28 novembre. Si aucun candidat n'obtient 50% des suffrages, un second tour est prévu le 19 décembre.
En République démocratique du Congo, 10 des 21 candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain et plusieurs leaders de l'opposition demandent le retrait de la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat de la coalition au pouvoir. Ils l'accusent d'utiliser à des fins de propagande des biens, des finances et du personnel de l'État. Ses opposants ont fait hier une déclaration à Kinshasa dans laquelle ils ont appelé à une mobilisation générale contre ce qu'ils ont qualifié d'élection chaotique le 23 décembre avec la machine à voter et un fichier corrompu. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les 13 leaders de l'opposition dénoncent des atteintes à la constitution associées au comportement partial du président de la CENI, Corneille Nangaa, qui, selon eux, tient à imposer aux Congolais la tenue d'un scrutin électronique au moyen de la machine à voter, voie de vote interdite par la loi électorale et ce, en se servant d'un fichier corrompu. Les signataires de cette déclaration appellent donc le peuple congolais à user de tous les moyens de droit, notamment des manifestations publiques, pour s'opposer à une parodie d'élection tendant à lui imposer un président de la République, des sénateurs et des députés irrégulièrement élus. En plus de l'utilisation de la machine à voter, les opposants dénoncent l'utilisation des moyens de l'État au profit du candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadary, dont ils exigent l'invalidation de la candidature. 10 candidats président de la République figurent parmi les 13 signataires de cette déclaration, mais une absence a souligné celle de Félix Tshisekedi, candidat président de l'UDPS Tshisekedi. Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Rwanda, 22 ans de prison, c'est la sentence requise par le parquet contre Diane Rwigara, opposante et critique du président Paul Kagame. Elle est accusée d'incitation à l'insurrection et de falsification de documents. Des détails avec Eric Manirakidza.
Diane Rwigara a 37 ans et conteste vigoureusement ses charges. En 2017, elle avait tenté de participer à l'élection présidentielle contre le président Paul Kagame, mais sa candidature avait été invalidée par la commission électorale, arguant qu'elle avait falsifié son dossier. Le parquet a requis 15 ans de prison pour incitation à l'insurrection et 7 ans pour falsification de documents. Depuis son arrestation, l'opposante dénonce des poursuites montées, selon elle, de toutes pièces par le régime pour la réduire au silence. Devant le tribunal hier, Diane Guigara a réaffirmé qu'elle maintient ses propos qui, selon elle, sont le reflet de son parcours politique couplé à l'appel lancé aux Rwandais de résister à la peur de parler haut et fort. Le parquet a également demandé 22 ans de réclusion contre sa mère, Adeline Guigara, pour incitation à l'insurrection et promotion du sectarisme. Le verdict dans ces deux affaires sera rendu le 6 décembre.
En Guinée, deux hommes ont été tués hier soir par des tirs de militaires dans une banlieue de Conakry, secouée dans la journée par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, selon l'AFP, citant des sources concordantes. Aucun commentaire des autorités n'était disponible dans l'immédiat.
En Mauritanie, le président Mohamed Oubd Abdelaziz a nommé un de ses hommes de confiance à la tête de l'armée nationale, Raissa Girondin.
Le général Mohamed Cher Oud Mohamed Lemine, 60 ans, chef d'état-major adjoint, a été désigné chef d'état-major de l'armée, a annoncé hier l'agence mauritanienne d'information. Le nouveau chef de l'armée a notamment dirigé des régions militaires, dont celles de Nouakchott et de Nouadhibou, et commandé l'armée de terre. Il remplace le général Mohamed Oud Cher Mohamed Ahmed Oud El Ghazouani, nommé ministre de la Défense dans le gouvernement formé le 30 octobre par le nouveau Premier ministre Mohamed Salem Oul Béchir. Ces changements interviennent après la large victoire lors des élections du 1er et 15 septembre du parti du président Aziz face à une opposition dominée par le parti islamiste Tewassoul. Mohamed Oud Abdelaziz, un ancien général arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2008, élu en 2009 puis réélu en 2014, doit achever son second et dernier mandat en 2019.
Les États-Unis ont annoncé hier une aide de 550 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir le Sénégal à relever le défi de la hausse des besoins en électricité dans ce pays en développement rapide. Le Millennium Challenge Corporation, un programme d'aide gouvernementale créé en 2004 qui attribue des subventions à des pays engagés vers la bonne gouvernance et la démocratie, a indiqué que le Sénégal allait lui-même contribuer à hauteur de 50 millions de dollars à ce projet.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le ministre de la Justice, Jeff Sessions, a démissionné sur demande du président Donald Trump. Les relations entre les deux pays se sont détériorées depuis mars 2017, lorsque M. Sessions s'est récusé dans le cadre de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. De nouveau, Eric Manirakidza.
Il s'agit de la première décision du président Trump au lendemain d'élections de mi-mandat qui ont renforcé la majorité républicaine au Sénat, mais fait basculer la Chambre des représentants dans le camp démocrate. Depuis plus d'un an, Donald Trump reprochait à Jeff Sessions d'être un ministre très faible, incapable de le protéger d'une injustice chasse aux sorcières. Depuis mars 2017, Monsieur Sessions était sur la sellette à la suite de sa récusation de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller qui cherche à établir une éventuelle collusion entre Moscou et l'équipe du candidat Trump lors de la présidentielle de 2016. Le numéro 2 du ministère de la Justice, Rod Rosenstein, supervisait jusque-là cette enquête. Le président Trump a confié l'intérim à Matthew Whitaker qui était directeur de cabinet du ministère déchu. En août 2017, il avait publié une tribune dans la presse reprochant au procureur spécial de s'intéresser aux finances de Donald Trump et appelant Rod Rosenstein à lui ordonner de limiter la portée de son enquête.
Toujours aux États-Unis, le président Trump se dit prêt à travailler avec les démocrates désormais majoritaires à la Chambre basse du Congrès, comme vient de le dire Eric. Toutefois, M. Trump veut qu'il renonce, les démocrates, à leur projet d'enquête sur sa présidence et ses finances. Abdourahmane Dia.
C'était un grand jour, un jour incroyable, a déclaré Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Le Parti républicain a défié l'histoire pour étendre notre majorité au Sénat et en déjouant de façon importante les prévisions à la Chambre. Le fait que les démocrates contrôlent la moitié du Congrès rendra les choses plus simples, a-t-il poursuivi. Il y aura moins de paralysie, selon lui. Les démocrates viendront nous voir avec un plan sur les infrastructures, sur la santé, sur ce qu'ils veulent, et nous négocierons. Nancy Pelosi, qui pourrait redevenir présidente de la Chambre en janvier, a estimé que son parti cherchera à travailler avec l'administration Trump, mais a prévenu que la victoire des démocrates à la Chambre permettait de restaurer le contrôle et l'équilibre dans les institutions. Le président a évoqué les menaces d'enquête parlementaire promises par les démocrates, notamment pour obtenir ses feuilles d'impôt. Personne ne publie sa feuille d'impôt pendant un contrôle fiscal. Si les démocrates persistaient, l'État sera paralysé, a-t-il averti. Ce n'est donc que le prélude des combats annoncés sur les deux prochaines années.
Au Pakistan, la chrétienne Asia Bibi a quitté il y a une semaine après 8 ans passés dans le couloir de la mort pour blasphème, mais qui était restée incarcérée depuis lors, a été libérée puis emmenée dans un lieu sécurisé inconnu. On m'a dit qu'elle était dans un avion, mais personne ne sait où elle va atterrir, a écrit maître Saïf Al-Moulouk dans un message à l'AFP. Sa libération pourrait provoquer la fureur des milieux islamistes radicaux qui appellent de longue date à son exécution. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Nani Talani.
La République démocratique du Congo et la République du Congo ont conclu un accord de 550 millions de dollars pour la reconstruction d'un pont devant relier les deux capitales les plus proches au monde, Kinshasa et Brazzaville. Le nouveau pont devrait traverser le fleuve Congo, séparant les deux villes, sur environ 1575 mètres. Le projet devrait inclure la construction d'un pont à péage, d'une voie ferrée, d'une route et d'un trottoir. Ce pont devrait stimuler les échanges entre les deux pays. Le Ghana inaugure une bourse de matières premières agricoles pour mettre les agriculteurs en relation avec les acheteurs. Première du genre en Afrique de l'Ouest, cette bourse profitera à environ 1 million d'agriculteurs en sécurisant le stockage de leurs récoltes. Les producteurs perdent souvent plus de 2/3 de leurs récoltes en raison de l'impossibilité de trouver des acheteurs à temps. Ils pourront utiliser leurs produits comme garantie et mieux gérer les risques de crédit et de défaut des emprunteurs. Ils disposeront aussi d'informations en temps réel sur les marchés et les prix via une messagerie. Le japonais Nissan officialise son projet d'implantation d'une usine d'assemblage au Ghana. L'accord a été paraffé par le directeur général de Nissan pour l'Afrique et le ministre ghanéen du commerce Nissan, qui dispose déjà d'usines de montage en Afrique du Sud et au Nigeria ainsi qu'en Égypte, a annoncé son intention d'implanter de nouveaux sites en Tunisie, en Algérie et au Kenya.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Guinée équatoriale jouera bel et bien la CAN féminine 2018.
Encore un rebondissement à 9 jours du coup d'envoi de la compétition prévue se tenir au Ghana du 17 novembre au 1er décembre. Après avoir dans un premier temps disqualifié la Guinée équatoriale remplacée par le Kenya, la CAF est revenue sur sa décision et son jury d'appel a prononcé la réintégration d'une Zalang féminino qui va donc remplacer le Kenya dans le groupe B. Jugé dans un premier temps inéligible à la suite d'une requête du Kenya qui la soupçonnait d'être camerounaise, la joueuse de la Guinée équatoriale Annette Jackie Messomo a finalement été considérée comme étant en règle et donc bel et bien équato-guinéenne.
3 joueurs guinéens recalés pour les éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans.
Alors qu'ils avaient été retenus dans la liste des 25 joueurs convoqués par le sélectionneur Souleymane Abedi Camara, 3 éléments ont en effet été écartés du stage après avoir passé des examens ayant mis en évidence qu'ils ont plus de 23 ans. Il s'agit des défenseurs Aboubakar Mangé Camara et Alseni Camara di Cantona du Oroya AC et Morlaï Silla du Félostar. La Guinée fera face à la Mauritanie dimanche prochain dans le cadre de ses éliminatoires.
4e journée de la Ligue Europa ce soir.
Oui, Arsenal et Chelsea peuvent se qualifier dès ce soir pour les 16e de finale en cas de succès respectivement contre le Sporting Portugal et le Bate Borisov. En revanche, Marseille, finaliste malheureux de la précédente édition, est au bord de l'élimination. Une défaite chez la Lazio Rome qui l'a corrigé 3-1 à l'aller au stade Vélodrome et c'en est fini des rêves européens pour les hommes de Rudy Garcia. La Lazio sera qualifiée si elle bat Marseille et que l'Apollon Limassol, dans le même temps, ne bat pas Francfort. NBA, pour finir, avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Oklahoma City bat Cleveland 95-86. Victoire de Détroit sur Orlando 103 à 96, Atlanta succombe à New York 112 à 107, Miami 95, San Antonio 88, Philadelphie bat Indiana 100 à 94, victoire de justesse de Memphis sur Denver 89 à 87.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président américain Donald Trump a limogé hier son ministre de la Justice Jeff Sessions, qu'il a accusé d'être incapable de le protéger d'une injuste chasse aux sorcières, allusion à l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. S'agit-il d'une reprise en main de la très délicate enquête ? Eric Manirakiza a joint à Washington le professeur Emilio Viano d'American University.
Sa conférence de presse a donné l'impression très claire qu'il pense qu'il a tout le pouvoir de prendre le contrôle de cette investigation. Il est convaincu que, comme président, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt parce que, naturellement, il est lui-même le sujet éventuel de cette investigation, de prendre le contrôle et de faire ce qu'il croit c'est mieux, naturellement, pour lui.
Ce n'est pas non plus le numéro 2 du ministère de la Justice, Rosenstein, qui va assurer un intérim.
Peut-être qu'il était le chef du cabinet de Jeff Sessions, est un loyaliste très, très profond de Trump. Ainsi, on peut bien s'attendre qu'il y aura des conséquences peut-être très dramatiques sur l'investigation de Mueller. C'est-à-dire, peut-être, Whitaker, suppression de Trump, pouvait même fermer l'investigation, déclarer qu'il n'y a rien d'incorrect dans le comportement du président et de ses conseillers pendant la campagne.
Est-ce que vous pensez que ça va faciliter la cohabitation avec les démocrates qui ont repris le contrôle de la Chambre des représentants?
Le président veut prendre l'avantage maintenant parce que, naturellement, le nouveau Congrès ne sera pas en fonction que le mois de janvier. Alors, il y a presque 2 mois et le président pense que dans cette période, il peut limoger Mueller et fermer le dossier. Naturellement, ça pourrait créer une crise constitutionnelle parce que, clairement, il y a un potentiel conflit d'intérêts. Ni Clinton, ni Nixon, ni d'autres présidents qui ont été investigués avec des procureurs spéciaux ont fait ça, déclaré qu'il avait le pouvoir de fermer et il n'y avait pas de lieu de continuer l'investigation. Ça serait quelque chose de complètement nouveau aux États-Unis dans le contexte constitutionnel. Il pourrait même créer une crise avec, naturellement, la Chambre des députés, mais aussi avec le Sénat. Mais le président, clairement, a pensé qu'il peut profiter de cette période où il y a un ancien congrès qui est presque en vacances avec le Thanksgiving et Noël et la nouvelle année. Et l'autre n'est pas encore en fonction et il peut faire ce qu'il veut en réalité, ce qu'il voulait toujours faire et qu'il n'y a jamais pardonné à Sessions de ne pas arrêter l'investigation et déclarer qu'il n'y a rien de collusion entre sa campagne et les Russes ou d'autres.
Mettre fin à cette enquête avant les conclusions du procureur spécial Mueller, n'est-ce pas un couteau à double tranchant?
Clairement, ça serait une crise très grave ici aux États-Unis parce que dans l'état de droit, même le président d'un pays n'est pas au-dessus de la loi. Il doit accepter qu'il y a des lois, des procédures qu'on doit respecter. Je pense que Trump est très, très préoccupé. On peut trouver quelque chose contre lui. Le nouveau Congrès, particulièrement la Chambre des députés, vont commencer des investigations sur ses finances, sur ses relations avec les oligarques russes, sur des intérêts avec même l'Arabie Saoudite et d'autres, de peut-être découvrir des problèmes de corruption même, et peut-être de lavage d'argent. Et il veut vraiment fermer la porte quand il pense qu'il peut le faire et survivre ça. Je pense naturellement que ça ne sera pas possible, qu'il y aura une crise très grave, même que les républicains, que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas vraiment exercé sa fonction constitutionnelle du Congrès, de veiller plus la protection de la Constitution et des lois, devront faire quelque chose.
C'était le professeur Emilio Viano d'American University, ici à Washington.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Cameroun, 90 élèves d'une école de Bamenda ont été enlevés puis libérés en 5 jours dans 2 enlèvements distincts. Idriss Fall a joint l'abbé Tata Humphrey Mouy, directeur de la communication de l'archidiocèse de Bamenda en zone anglophone.
C'était 79, on les a retrouvés dans un état un peu traumatisé. Certains sont vraiment traumatisés, mais ils sont en bonne condition physiquement, mais ils sont psychologiquement traumatisés. Ce soir, je voulais même parler avec eux, c'est impossible. J'ai dû organiser avec les autorités du collège de venir là-bas pour voir si on peut parler, causer quand même avec les élèves pour savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec eux.
Donc, ils n'ont pas donné le détail de qui, comment ils ont été enlevés.
En ce moment, c'est vraiment difficile. Et je peux vous ajouter que ça serait un peu délicat de dire parce qu'on a des tensions de deux côtés. Du gouvernement, on dit que ce sont des Amazoniens. Les Amazoniens ont donné toutes les preuves pour montrer que ça ne pouvait pas être eux. Et on est vraiment frustrés pour savoir exactement qui a enlevé cet enfant. Ce n'est que les enfants eux-mêmes et le chauffeur qui était avec eux qui peut parler. Et jusqu'à ce moment, c'est vraiment difficile pour quelqu'un de dire qui a fait cet enlèvement.
Mais pour le moment, il y a encore d'autres élèves et un professeur qui sont toujours enlevés, non?
Oui, il y a le directeur du collège, le principal, qui est là. Il y a notre professeur qui est encore porté disparu. On ne sait pas ce qui se passe. Il semble qu'il est encore avec eux. C'est un peu difficile aujourd'hui. C'était question de s'en occuper des enfants. Et puis, après les enfants, on va voir. Les autorités du collège les ont dit seulement d'aller se reposer parce que certains n'arrivaient même pas à parler. Ils étaient si choqués. C'était impossible de commencer à les poser encore des questions. Et en ce moment, on les a laissés reposer. Quand ils sont venus, les militaires camerounais les ont apportés au gouverneur de la région. Et c'est de là, ils sont maintenant, à l'heure que je vous parle, ils sont déjà au collège.
Mais à quoi ressemble la vie à Bamenda avec toute la tension?
Les gens sont déjà habitués à la violence. Ils sont habitués à des maîtres vraiment inhumains à chaque jour. Et je vous le dis, au centre de Bamenda, quand quelqu'un arrive, il semble qu'il n'y a rien qui se passe dans le nord-ouest. Mais quand tout commence à partir vers Bamboui, à 4 km seulement de Bamenda, tu sens vraiment des villages complètement vides. Les gens, ils sont dispersés partout, les villages brûlés, les maisons brûlées, et tu sens en ce moment, la vie est vraiment dure pour les gens.
L'abbé Tata Humphrey Mouy, directeur de la communication de l'archidiocèse de Bamenda en zone anglophone au Cameroun. Au Bénin, les albinos semblent s'intégrer dans une société qui les a tout le temps combattus et qu'ils essaient aujourd'hui de sensibiliser ouvertement quant à leurs droits et devoirs en tant que membres à part entière de cette société. Reportage de Ginette Fleur Adondé, notre correspondante à Cotonou.
Même si elles constituent une petite portion de la population béninoise, les personnes atteintes d'albinisme existent. Dans certaines régions du Bénin, elles sont idolâtrées et considérées comme des êtres sacrés aux origines divines. Sa Majesté le roi des habitants de Soava, un village lacustre situé à quelques kilomètres de Cotonou, est un albinos. Pour lui, cette race de personnes porte en elle la lumière et la richesse.
Ceux qui ont eu le don, la chance, l'honneur, le bonheur d'avoir des albinos n'ont qu'à s'occuper correctement de leur fils albinos. S'ils s'en occupent, ils ne seront jamais pauvres.
Mais malheureusement, dans d'autres contrées du Bénin, cette clarté et cette différence de la peau de l'albinos font penser que ces organes peuvent être utilisés pour préparer des mistus afin de s'attirer la chance, le bonheur de façon miraculeuse. Damien raconte ici son expérience qui lui a fait renoncer à l'éducation.
J'étais au CM2. Je suis allé chez le maître, j'ai dit, s'il vous plaît maître, je ne voyais pas. Il a dit, tant pis, car bon, ce n'est qu'il ne voit pas là. Il n'a qu'à bien ouvrir ses yeux quoi, pour voir quoi. Donc, lorsqu'il a dit ça, les gens ont commencé par rire. Bon, pour le de l'âme ce jour-là, bon. Pour me faire peur aussi, il y a certains messieurs qui me disent, ah, je vais te placer maintenant sous le soleil maintenant. Hein. Je vais te demander de regarder le soleil. Je me sentais vraiment lésé.
Mais depuis décembre 2012, l'ambassade des États-Unis au Bénin et l'association Worldwide Connection travaillent à soutenir la protection des personnes atteintes d'albinisme. Il s'agit de sensibiliser les populations à prendre conscience de la vulnérabilité des albinos et à œuvrer travailler pour leur intégration dans la société. 6 ans après, l'initiative semble avoir porté ses fruits.
On est étonné de leur performance intellectuelle parfois. On a un autre schéma en tête.
Moi, je pense qu'ils sont suffisamment concentrés pour qu'on puisse leur confier beaucoup d'activités dans les entreprises. Parce que c'est des gens, ils ne sont pas trop comme les autres où on bavarde. C'est des gens, quand on leur confie des tâches, ils sont beaucoup concentrés sur ça.
Mais les albinos ne comptent pas dormir sur le laurier. Ils comptent poursuivre l'éveil de la conscience collective afin que les personnes atteintes d'albinisme puissent être maintenues à l'école et que les problèmes de vision et les railleries ne soient plus les obstacles à leur épanouissement sur le plan intellectuel.
Ces personnes ne sont pas bien encadrées en situation de classe, fait qu'elles abandonnent les bancs. Et si on arrive donc à les maintenir à l'école le plus longtemps possible, on diminue le plus possible le risque de cancer.
Le chemin pour que les albinos s'intègrent dans la société béninoise et ne soient plus vus comme des personnes d'une autre dimension est bien long, mais c'est déjà une victoire que les meurtres dont ils font l'objet soient conjugués au passé et que de plus en plus leurs droits en tant que personnes à part entière prennent désormais tout son sens. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Au Mali, le voyage pour les régions du Nord est devenu plus facile grâce au bateau de la compagnie malienne de navigation. De Mobutu à Tombouctou, il y a 2 petits bateaux toujours bondés à cause de l'insécurité sur les routes, les braquages et les viols de femmes par des hommes armés. Reportage de notre correspondant Kassim Traoré à bord du bateau Firoun Ag al-Insar entre Mopti et Tombouctou.
Sur les quais, un géant homme aux cheveux grisonnants, tout de bleu vêtu, fait le tour de l'appareil sur l'eau, puis demanda à la sécurité de faire le contrôle des bagages pour embarquement. Sidi Kone est le commissaire mécanicien du bateau Firoun Ag al-Ansar.
Le Firoun, c'est un paquebot de 31,24 mètres de longueur et 7,10 mètres de largeur. La vitesse moyenne, c'est 13 kilonewtons, environ 24 km par heure. Sa capacité est de 60 personnes, membres de l'équipage. C'est 6 personnes et le bateau est équipé d'un sauvetage sous chaque chaise.
Le bateau Firoun Ag al-Ansar et Modibo Keïta assurent le voyage entre Mopti et Tombouctou. Omar Aïdara, fonctionnaire et passager.
Le déplacement devient compliqué avec l'insécurité. Ça résout en partie quand même ce problème. Pour 24 heures, Mopti, Kabara, ça va, je dirais. Mais le coût quand même reste vraiment à voir. Ce n'est pas à la portée quand même de tout un chacun. Toute la chaise assise fait 38 500 francs CFA. Vous comprenez, pour les gens du Nord, pour le Malien en général, là, c'est quand même excessif. Je vois que les gens sont contraints de le prendre et ne souhaitent même pas que ça s'arrête parce que c'est un moment, d'ici 3-4 mois, c'est fini, il faut revenir au calvaire de la route.
Les petits bateaux, c'est 2 parties, une cabine à chambre et des chaises assises avec moins de commodités selon Zinab Baba.
C'est des chaises assises et il n'y a qu'une seule toilette pour les femmes et une toilette pour les hommes. Avec plus de 50 passagers, s'il faut utiliser les mêmes toilettes et s'asseoir de 10h jusqu'au lendemain 7h, ce n'est pas du tout facile. Les bagages sont fouillés, ils mettent leurs mains partout. L'intimité et même la dignité de la personne est bafouée. Moi, je pense qu'il faut doter ces militaires-là de moyens pour qu'au moins le contrôle puisse être fait en respectant la dignité de la personne.
Avec la crue, la navigabilité est facile. La sécurité à bord et la fraîcheur font que certains préfèrent le bateau. Bamboy Djitei, enseignant.
Parce que la route, là, toujours, il y a des braquages, il y a des attaques. Donc, c'est à cause de ça que tout le monde veut prendre les bateaux. Les véhicules les plus rapides. Mais on n'a pas le choix. Maintenant, là où nous sommes aujourd'hui, on est obligé de prendre les bateaux parce qu'il n'y a pas de sécurité là. Ça balance.
Après 20 heures de voyage, le Firoun Ag al-Ansar accoste à Kabara, le quai de Tombouctou. Les hommes chargés de la sécurité débarquent en premier, suivis des passagers et leurs bagages sous l'œil vigilant du commissaire Sidi Kone.
Quand tu veux faire la réservation, il faut faire 2 semaines pour que tu puisses avoir. Sinon, on quitte à 10h, on arrive à 6h, 5h et quelques. Donc ça ne vaut pas les 24 heures aller-retour.
Du début à maintenant, vous n'avez pas été victime.
Non. Mais on sait que la zone de Aka jusqu'à vers Direi, on sait que la zone n'est pas bonne. Oui, c'est la zone qu'on ne dépasse pas dans la nuit.
Ces petits bateaux de la Comanave ne peuvent pas transporter des marchandises. Il y a des grands bateaux. En plus, il y a les bateaux militants pour les frets et les bateaux qui transportent les carburants. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.